Chapitre 20. Lisbeth, le lendemain matin, était à 7 heures dans un fiacre sur le quai de la Tournelle, où elle fit arrêter à l'angle de la rue de Poissy. « Allez, dit-elle au cocher, rue des Bernardins, au numéro 7. C'est une maison à l'allée et sans portier. Vous monterez au 4e étage, vous sonnerez à la porte de gauche, sur laquelle d'ailleurs vous lirez « Mademoiselle Chardin, repriseuse de dentelles et de cachemire. On viendra. Vous demanderez le chevalier. On vous répondra « Il est sorti ». Vous direz « Je le sais bien, mais trouvez-le, car sa bonne est là sur le quai, dans un fiacre, et veut le voir. » 20 minutes après, un vieillard qui paraissait âgé de 80 ans, aux cheveux entièrement blancs, le nez rougi par le froid, dans une figure pâle et ridée comme celle d'une vieille femme, allant d'un pas traînant, les pieds dans des pantoufles de lisière, le dos voûté, vêtu d'une redingote d'alpaga chauve, ne portant pas de décoration, laissant passer à ses poignets les manches d'un gilet tricoté et la chemise d'un jaune inquiétant, se montra timidement, regarda le fiacre, reconnut Lisbeth et vint à la portière. « Ah, mon cher cousin, dit-elle, dans quel état vous êtes ?»« Élodie prend tout pour elle, dit le baron Hulot. Ces Chardins sont des canailles puantes. Allez-vous revenir avec nous ?»« Oh, non, non, dit le vieillard, je voudrais passer en Amérique. Adeline est sur vos traces. »« Ah, si l'on pouvait payer mes dettes !» demanda le baron d'un air défiant, car Samanon me poursuit. « Nous n'avons pas encore payé votre arriéré. Votre fils doit encore 100 000 francs. »« Pauvre garçon. Et votre pension ne sera libre que dans 7 à 8 mois. Si vous voulez attendre, j'ai là 2 000 francs. » Le baron tendit la main par un geste avide, effrayant. « Donne, Lisbeth, que Dieu te récompense. Donne, je sais où aller. »« Mais vous me le direz, vieux monstre. » »« Oui, je puis attendre 6 mois. » Car j'ai découvert un petit ange, une bonne créature, une innocente, et qui n'est pas assez âgée pour être encore dépravée. Songez à la cour d'assises, dit Lisbeth, qui se flattait d'y voir un jour Hulot. Et c'est la rue de Charonne, dit le baron Hulot, un quartier où tout arrive sans esclandre. Va, l'on ne me trouvera jamais. Je me suis déguisée, Lisbeth, en père Torec. On me prendra pour un ancien ébéniste. La petite m'aime, et je ne me laisserai plus manger la laine sur le dos. Non, c'est fait, dit Lisbeth en regardant la redingote. Si je vous y conduisais, cousin. Le baron Hulot monta dans la voiture, en abandonnant Mademoiselle Élodie sans lui dire adieu, comme on jette un roman lu. En une demi-heure, pendant laquelle le baron Hulot ne parla que de la petite Atala Judicie à Lisbeth, car il était arrivé par degrés aux affreuses passions qui ruinent les vieillards, sa cousine le déposa, muni de 2 000 francs, rue de Charonne, dans le faubourg Saint-Antoine, à la porte d'une maison à façade suspecte et menaçante. « Adieu, cousin, tu seras maintenant le père Torec, n'est-ce pas? Ne m'envoie que des commissionnaires, et en les prenant toujours à des endroits différents. » C'est dit. « Oh, je suis bien heureux !» dit le baron, dont la figure fut éclairée par la joie d'un futur et tout nouveau bonheur. « On ne le trouvera pas là, » se dit Lisbeth, qui fit arrêter son fiacre au boulevard Beaumarchais, d'où elle revint en omnibus, rue Louis-le-Grand. Le lendemain, Crevel fut annoncé chez ses enfants, au moment où toute la famille était réunie au salon, après le déjeuner. Célestine courut se jeter au cou de son père, et se conduisit comme s'il était venu la veille, quoique depuis 2 ans, ce fût sa première visite. « Bonjour, mon père, » dit Victorin en lui tendant la main. « Bonjour, mes enfants, » dit l'important Crevel. « Madame la baronne, je mets mes hommages à vos pieds. Dieu, comme ces enfants grandissent, ça nous chasse. Ça nous dit « Grand-papa, je veux ma place au soleil. Madame la comtesse, « vous êtes toujours admirablement belle, » ajouta-t-il en regardant Hortense. « Et voilà le reste de nos écus. Ma cousine bête, la vierge sage, mais vous êtes tous très bien ici, » dit-il après avoir distribué ses phrases à chacun et en les accompagnant de gros rires qui remuaient difficilement les masses rubicondes de sa large figure. Et il regarda le salon de sa fille avec une sorte de dédain.
« Ma chère Célestine, je te donne tout mon mobilier de la rue des Saussets. Il fera très bien ici. Ton salon a besoin d'être renouvelé. Ah, voilà ce petit drôle de Venceslas. Eh bien, sommes-nous sages, mes petits-enfants? Il faut avoir des mœurs. »
« Pour ceux qui n'en ont pas, » dit Lisbeth.
« Ce sarcasme, ma chère Lisbeth, ne me concerne plus. Je vais, mes enfants, mettre un terme à la fausse position où je me trouvais depuis si longtemps. Et en bon père de famille, je vais vous annoncer mon mariage, là, tout bonifacement. »
« Vous avez le droit de vous marier, » dit Victorin, « et pour mon compte, je vous rends la parole que vous m'avez donnée en m'accordant la main de ma chère Célestine. »
« Quelle parole ? » demanda Crevel.
« Celle de ne pas vous marier, » répondit l'avocat. « Vous me rendrez la justice d'avouer que je ne vous demandais pas cet arrangement, que vous l'avez bien volontairement pris malgré moi, car je vous ai, dans ce temps, fait observer que vous ne deviez pas vous lier ainsi. »
« Oui, je m'en souviens, mon cher ami, » dit Crevel honteux. « Et ma foi, tenez, mes chers enfants, si vous voulez bien vivre avec Madame Crevel, vous n'auriez pas à vous repentir. Votre délicatesse, Victorin, me touche. On n'est pas impunément généreuse avec moi. Voyons, sapristi, accueillez bien votre belle-mère, venez à mon mariage. »
« Vous ne nous dites pas, mon père, quel est votre fiancé ? » dit Célestine.
« C'est le secret de la comédie, » reprit Crevel. « Ne jouons pas à cache-cache. Lisbeth a dû vous dire... »
« Mon cher monsieur Crevel, » répliqua la Lorraine, « il est des noms qu'on ne prononce pas ici. »«
Eh bien, c'est madame Marneffe. »
« Monsieur Crevel, » répondit sévèrement l'avocat, « ni moi, ni ma femme, nous n'assisterons à ce mariage. Non par des motifs d'intérêt, car je vous ai parlé tout à l'heure avec sincérité. Oui, je serai très heureux de savoir que vous trouverez le bonheur dans cette union, mais je suis mû par des considérations d'honneur et de délicatesse que vous devez comprendre et que je ne puis exprimer, car elle raviverait des blessures encore saignantes ici. » La baronne fit un signe à la comtesse, qui, prenant son enfant dans ses bras, lui dit
« Allons, viens prendre ton bain, Venceslas. Adieu, monsieur Crevel. »
La baronne salua Crevel en silence, et Crevel ne put s'empêcher de sourire en voyant l'étonnement de l'enfant quand il se vit menacé de ce bain improvisé.
« Vous épousez, monsieur !» s'écria l'avocat, quand il se trouva seul avec Lisbeth,
avec sa femme et son beau-père, une femme chargée des dépouilles de mon père, et qui l'a froidement conduit où il est, une femme qui vit avec le gendre, après avoir ruiné le beau-père, qui cause les chagrins mortels de ma sœur, et vous croyez qu'on nous verra sanctionnant votre folie par ma présence ? Je vous plains sincèrement, mon cher monsieur Crevel. Vous n'avez pas le sens de la famille, vous ne comprenez pas la solidarité d'honneur qui en lie les différents membres. On ne raisonne pas, je l'ai trop su malheureusement, les passions. Les gens passionnés sont sourds comme ils sont aveugles. Votre fille Célestine a trop le sentiment de ses devoirs pour vous dire un seul mot de blâme.
« Ce serait joli !» dit Crevel qui tenta de couper court à cette mercuriale.
« Célestine ne serait pas ma femme si elle vous faisait une seule observation, » reprit l'avocat. « Mais moi, je puis essayer de vous arrêter avant que vous ne mettiez le pied dans le gouffre, surtout après vous avoir donné la preuve de mon désintéressement. Ce n'est certes pas votre fortune, c'est vous-même dont je me préoccupe. Et pour vous éclairer sur mes sentiments, je puis ajouter, ne fût-ce que pour vous tranquilliser relativement à votre futur contrat de mariage, que ma situation de fortune est telle que nous n'avons rien à désirer.
« Grâce à moi !» s'écria Crevel,
dont la figure était devenue violette. « Grâce à la fortune de Célestine, » répondit l'avocat, « et si vous regrettez d'avoir donné, comme une dot venant de vous, à votre fille des sommes qui ne représentent pas la moitié de ce que lui a laissé sa mère, nous sommes prêts à vous les rendre. Savez-vous, monsieur mon gendre, » dit Crevel, qui se mit en position, qu'en couvrant de mon nom Madame Marneffe, elle ne doit plus répondre au monde de sa conduite qu'en qualité de Madame Crevel. « C'est peut-être très gentilhomme, » dit l'avocat, « c'est généreux quant aux choses de cœur, aux écarts de la passion, mais je ne connais pas de nom, ni de loi, ni de titre qui puisse couvrir le vol des 300 000 francs ignoblement arrachés à mon père. Je vous dis nettement, mon cher beau-père, que votre futur est indigne de vous, qu'elle vous trompe, et qu'elle est amoureuse folle de mon beau-frère Steinbock. Elle en a payé les dettes. C'est moi qui les ai payées. Bien, reprit l'avocat, j'en suis bien aise pour le comte Steinbock, qui pourra s'acquitter un jour. Mais il est aimé, très aimé, souvent aimé. Il est aimé, dit Crevel, dont la figure annonçait un bouleversement général. C'est lâche, c'est sale et petit, et commun de calomnier une femme. Quand on avance ces sortes de choses-là, monsieur, on les prouve. Je vous donnerai des preuves. Je les attends. Après-demain, mon cher monsieur Crevel, je vous dirai le jour et l'heure, le moment où je serai en mesure de dévoiler l'épouvantable dépravation de votre future épouse. Très bien, je serai charmé, dit Crevel qui reprit son sang-froid. Adieu, mes enfants, au revoir. Adieu, Lisbeth.
Suis-le donc, Lisbeth, dit Célestine à l'oreille de la cousine Bette.
Eh bien, voilà comme vous vous en allez, cria Lisbeth à Crevel. Ah, lui dit Crevel, il est devenu très fort, mon gendre. Il s'est formé, le palais, la chambre, la rouerie judiciaire et la rouerie politique en font un gaillard. Ah ah, il sait que je me marie mercredi prochain. Et dimanche, ce monsieur me propose de me dire, dans 3 jours, l'époque à laquelle il me démontrera que ma femme est digne de moi. Ce n'est pas maladroit. Je retourne signer le contrat. Allons, viens avec moi, Lisbeth, viens. Ils n'en seront rien. Je voulais laisser 40 000 francs de rente à Célestine, mais Hulot vient de se conduire de manière à s'aliéner mon cœur à tout jamais. Donnez-moi 10 minutes, père Crevel. Attendez-moi dans votre voiture à la porte. Je vais trouver un prétexte pour sortir. Eh bien, c'est convenu.
Mes amis, dit Lisbeth qui retrouva la famille au salon, je vais avec Crevel. On signe le contrat ce soir. Et je pourrai vous en dire les dispositions. Ce sera probablement ma dernière visite à cette femme. Votre père est furieux. Il va vous déshériter.
Sa vanité l'en empêchera, répondit l'avocat. Il a voulu posséder la terre de Presles, il la gardera.
Je le connais. Eût-il des enfants, Célestine recueillera toujours la moitié de ce qu'il laissera. La loi l'empêche de donner toute sa fortune.
Mais ces questions ne sont rien pour moi. Je ne pense qu'à notre honneur.
« Allez, cousine, » dit-il en serrant la main de Lisbeth, « écoutez bien le contrat. » 20 minutes après, Lisbeth et Crevel entraient à l'hôtel de la rue Barbet, où Madame Marneffe attendait dans une douce impatience le résultat de la démarche qu'elle avait ordonnée. Valérie avait été prise, à la longue, pour Venceslas de ce prodigieux amour qui, une fois dans la vie, étreint le cœur des femmes. Cet artiste manqué devint, entre les mains de Madame Marneffe, un amant si parfait qu'il était pour elle ce qu'elle avait été pour le baron Hulot. Valérie tenait des pantoufles d'une main et l'autre était à Steinbock, sur l'épaule de qui elle reposait la tête. Il en est de la conversation à propos interrompue dans laquelle il s'était lancé depuis le départ de Crevel, comme de ces longues œuvres littéraires de notre temps, au fronton desquelles on lit, la reproduction en est interdite. Ce chef-d'œuvre de poésie intime amena naturellement sur les lèvres de l'artiste un regret qu'il exprima non sans amertume.
« Ah, quel malheur que je me sois mariée !» dit Venceslas. « Car si j'avais attendu, comme le disait Lisbeth, aujourd'hui je pourrais t'épouser. »
« Il faut être polonais pour souhaiter faire sa femme d'une maîtresse dévouée, » s'écria Valérie, « et changer l'amour contre le devoir, le plaisir contre l'ennui. »
« Je te connais si capricieuse, » répondit Steinbock. « Ne t'ai-je pas entendu causant avec Lisbeth du baron Montès, ce Brésilien ? Veux-tu m'en débarrasser ?» dit Valérie.
« Ce serait, » répondit l'ex-sculpteur, « le seul moyen de t'empêcher de le voir. »«
Apprends, mon chéri, » répondit Valérie, « que je le ménageais pour en faire un mari, car je te dis tout à toi, les promesses que j'ai faites à ce Brésilien, oh, bien avant de te connaître. » dit-elle en répondant à un geste de Venceslas.
Eh bien, ces promesses, dont il s'arme pour me tourmenter, m'obligent à me marier presque secrètement. Car s'il apprend que j'épouse Crevel, il est homme à me tuer.
Oh, quant à cette crainte, dit Steinbock en faisant un geste de dédain qui signifiait que ce danger-là devait être insignifiant pour une femme aimée par un Polonais.
Remarquez qu'en fait de bravoure, il n'y a plus la moindre forfanterie chez les Polonais, tant ils sont réellement et sérieusement braves. Et cet imbécile de Crevel, qui veut donner une fête, et qui se livre à ses goûts de faste économique à propos de mon mariage, me met dans un embarras d'où je ne sais comment sortir.
Valérie pouvait-elle avouer à celui qu'elle adorait que le baron Henri Montès avait, depuis le renvoi du baron Hulot, hérité du privilège de venir chez elle à toute heure de nuit, et que malgré son adresse, elle en était encore à trouver une cause de brouille, où le Brésilien croirait avoir tous les torts? Elle connaissait trop bien le caractère quasi sauvage du baron, qui se rapprochait beaucoup de celui de Lisbeth, pour ne pas trembler en pensant à ce mort de Rio de Janeiro. Au roulement de la voiture, Steinbock quitta Valérie, qu'il tenait par la taille, et il prit un journal dans la lecture duquel on le trouva tout absorbé. Valérie brodait, avec une attention minutieuse, des pantoufles à son futur.
« Comme on la calomnie !» dit Lisbeth à l'oreille de Crevel sur le seuil de la porte en lui montrant ce tableau. « Voyez sa coiffure. Est-elle dérangée ? À entendre Victorin, vous auriez pu surprendre deux tourtereaux au nid. » « Ma chère Lisbeth, répondit Crevel en position, vois-tu, pour faire d'une Aspasie une Lucrèce, il suffit de lui inspirer une passion. »
« Ne vous ai-je pas toujours dit, reprit Lisbeth, que les femmes aiment les gros libertins comme vous ?
Elles seraient d'ailleurs bien ingrates, reprit Crevel, car combien d'argent ai-je mis ici ? Grindot et moi seuls, nous le savons. »
Et il montrait l'escalier. Dans l'arrangement de cet hôtel que Crevel regardait comme le sien, Grindot avait essayé de lutter avec Cléretti, l'architecte à la mode, à qui le duc d'Hérouville avait confié la maison de Josepha. Mais Crevel, incapable de comprendre les arts, avait voulu, comme tous les bourgeois, dépenser une somme fixe, connue à l'avance. Maintenu par un devis, il fut impossible à Grindot de réaliser son rêve d'architecte. La différence qui distinguait l'hôtel de Josepha de celui de la rue Barbet était celle qui se trouve entre la personnalité des choses et leur vulgarité. Ce qu'on admirait chez Josepha ne se voyait nulle part. Ce qui reluisait chez Crevel pouvait s'acheter partout. Ces deux luxes sont séparés l'un de l'autre par le fleuve du million. Un miroir unique vaut 6 000 francs. Le miroir inventé par un fabricant qui l'exploite coûte 500 francs. Un lustre authentique de boule monte en vente publique à 3 000 francs. Le même lustre surmoulé pourra être fabriqué pour 1 000 ou 1 200 francs. L'un est en archéologie ce qu'un tableau de Raphaël est en peinture. L'autre en est la copie. Qu'estimez-vous d'une copie de Raphaël ? L'hôtel de Crevel était donc un magnifique spécimen du luxe des sceaux, comme l'hôtel de Josepha, le plus beau modèle d'une habitation d'artiste.
« Nous avons la guerre, » dit Crevel en allant vers sa future.
Madame Marneff sonna. « Allez chercher M. Berthier, » dit-elle au valet de chambre, « et ne revenez pas sans lui. »«
Si tu avais réussi, » dit-elle en enlaçant Crevel, « mon petit père, nous aurions retardé mon bonheur, et nous aurions donné une fête à étourdir. Mais quand toute une famille s'oppose à un mariage, mon ami, la décence veut qu'il se fasse sans éclat, surtout lorsque la mariée est veuve.
Moi, je veux au contraire afficher un luxe à la Louis XIV, dit Crevel, qui depuis quelque temps trouvait le XVIIIe siècle petit. J'ai commandé des voitures neuves. Il y a la voiture de monsieur et celle de madame, deux jolis coupés, une calèche, une berline d'apparat avec un siège superbe qui tressaille comme madame Hulot.
Ah, je veux ! Tu ne serais donc plus mon agneau ? « Non, non, ma biche, tu feras à ma volonté. Nous allons signer notre contrat entre nous ce soir. Puis, mercredi, nous nous marierons officiellement, comme on se marie réellement, en catimini, selon le mot de ma pauvre mère. Nous irons à pied vêtus simplement à l'église, où nous aurons une messe basse. Nos témoins sont Stidman,
Steinbock, Vignon et Massol, tous gens d'esprit qui se trouveront à la mairie comme par hasard, et qui nous feront le sacrifice d'entendre une messe. Ton collègue nous mariera, par exception, à 9 heures du matin. La messe est à 10 heures. Nous serons ici à déjeuner à 11h30. J'ai promis à nos convives que l'on ne se lèverait de table que le soir. Nous aurons Bixiou, ton ancien camarade de birotterie du Tillet, Lousteau, Vernisset, Léon de Laura, Vernou, la fleur des gens d'esprit, qui ne nous seront pas mariés. Nous les mystifierons. Nous nous griserons un petit brin, et Lisbeth en sera. Je veux qu'elle apprenne le mariage. Bixiou doit lui faire des propositions et la déniaiser. Pendant 2 heures, Madame Marneff débita des folies qui firent faire à Crevel cette réflexion judicieuse. Comment une femme si gaie pourrait-elle être dépravée? Folichonne, oui, mais perverse. Allons donc. Qu'est-ce que tes enfants ont dit de moi? Demanda Valérie à Crevel dans un moment où elle le tint près d'elle sur sa causeuse. Bien des horreurs.
Ils prétendent, répondit Crevel, que tu aimes Venceslas d'une façon criminelle, toi, la vertu même.
Je crois bien que je l'aime, mon petit Venceslas, s'écria Valérie en appelant l'artiste, le prenant par la tête et l'embrassant au front. Pauvre garçon sans appui, sans fortune, dédaigné par une girafe couleur carotte. Que veux-tu, Crevel? Venceslas, c'est mon poète, et je l'aime au grand jour comme si c'était mon enfant. Ces femmes vertueuses, ça voit du mal partout et en tout. Ah ça, elle ne pourrait donc pas rester sans mal faire auprès d'un homme? Moi, je suis comme les enfants gâtés à qui l'on n'a jamais rien refusé. Les bonbons ne me causent plus aucune émotion. Pauvre femme, je les plains. Et qu'est-ce qui me détériorait comme cela?
Victorin, dit Crevel.
Eh bien, pourquoi ne lui as-tu pas fermé le bec à ce perroquet judiciaire, avec les 200 000 francs de la maman?
Ah, la baronne avait fui, dit Lisbeth.
Qu'ils y prennent garde. Lisbeth, dit Madame Marneff en fronçant les sourcils. Ou ils me recevront chez eux, et très bien, et viendront chez leur belle-mère, tous, ou je les logerai, dis-leur de ma part, plus bas que ne se trouve le baron. Je veux devenir méchante à la fin. Ma parole d'honneur, je crois que le mal est à la faux avec laquelle on met le bien en coupe. À 3 heures, Maître Berthier, successeur de Cardot, lut le contrat de mariage, après une courte conférence entre Crevel et lui, car certains articles dépendaient de la résolution que prendraient Monsieur et Madame Hulot-Jeune. Crevel reconnaissait à sa future épouse une fortune composée, premièrement, de 40 000 francs de rente, dont les titres étaient désignés, deuxièmement, de l'hôtel et de tout le mobilier qu'il contenait, et troisièmement, de 3 000 000 en argent. En outre, il faisait à sa future épouse toutes les donations permises par la loi. Il la dispensait de tout inventaire, et dans le cas où, lors de leur décès, les conjoints se trouveraient sans enfants, ils se donnaient respectivement l'un à l'autre l'universalité de leurs biens, meubles et immeubles. Ce contrat réduisait la fortune de Crevel à 2 000 000 de capital. S'il avait des enfants de sa nouvelle femme, il restreignait la part de Célestine à 500 000 francs à cause de l'usufruit de sa propriété accordée à Valérie. C'était la 9e partie environ de sa fortune actuelle. Lisbeth revint dîner rue Louis-le-Grand, le désespoir peint sur la figure. Elle expliqua, commenta le contrat de mariage, et trouva Célestine insensible autant que Victorin à cette désastreuse nouvelle.
« Vous avez irrité votre père, mes enfants. Madame Marneff a juré que vous recevriez chez vous la femme de Monsieur Crevel, et que vous viendriez chez elle, » dit-elle. « Jamais, » dit Hulot.
« Jamais, » dit Célestine. « Jamais, » s'écria Hortense. Lisbeth fut saisie du désir de vaincre l'attitude superbe de tous les Hulots.
« Elle paraît avoir des armes contre vous, » répondit-elle. « Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais je le saurai. » Elle a parlé vaguement d'une histoire de 200 000 francs qui regarde Adeline.
La baronne Hulot se renversa doucement sur le divan où elle se trouvait, et d'affreuses convulsions se déclarèrent.
« Allez-y, mes enfants ! Cria la baronne.
Recevez cette femme. Monsieur Crevel est un homme infâme. Il mérite le dernier supplice. Obéissez à cette femme. Ah, c'est un monstre. Elle sait tout.
Après ces mots mêlés à des larmes, à des sanglots, Madame Hulot trouva la force de monter chez elle, appuyée sur le bras de sa fille et sur celui de Célestine.
« Qu'est-ce que tout ceci veut dire ? » s'écria Lisbeth, restée seule avec Victorin.
L'avocat, planté sur ses jambes, dans une stupéfaction très convenable, n'entendit pas Lisbeth.
« Qu'as-tu, mon Victorin ? Je suis épouvanté, » dit l'avocat, dont la figure devint menaçante. « Malheur à qui touche à ma mère ! Je n'ai alors plus de scrupules. Si je le pouvais, j'écraserais cette femme, comme on écrase une vipère. Ah, elle attaque la vie et l'honneur de ma mère !»«
Elle a dit, ne répète pas ceci, mon cher Victorin, elle a dit qu'elle vous logerait tous encore plus bas que votre père. Elle a reproché vertement à Crevel de ne pas vous avoir fermé la bouche avec ce secret qui paraît tant épouvanter Adeline. »
On envoya chercher un médecin, car l'état de la baronne empirait. Le médecin ordonna une potion pleine d'opium, et Adeline tomba, la potion prise, dans un profond sommeil. Mais toute cette famille était en proie à la plus vive terreur. Le lendemain, l'avocat partit de bonne heure pour le palais, et il passa par la préfecture de police, où il supplia Vautrin, le chef de la sûreté, de lui envoyer Madame de Saint-Estève.
« On nous a défendu, monsieur, de nous occuper de vous, mais Madame de Saint-Estève est marchande, elle est à vos ordres, » répondit le célèbre chef.
De retour chez lui, le pauvre avocat apprit que l'on craignait pour la raison de sa mère. Le docteur Bianchon, le docteur Larabite, le professeur Angard, réunis en consultation, venaient de décider l'emploi des moyens héroïques pour détourner le sang qui se portait à la tête. Au moment où Victorin écoutait le docteur Bianchon, qui lui détaillait les raisons qu'il avait d'espérer l'apaisement de cette crise, quoique ses confrères en désespérassent, le valet de chambre vint annoncer à l'avocat sa cliente, Madame de Saint-Estève. Victorin laissa Bianchon au milieu d'une période et descendit l'escalier avec une rapidité de fou.
« Y aurait-il dans la maison un principe de folie contagieux ?» dit Bianchon en se retournant vers Larabite.
Les médecins s'en allèrent en laissant un interne chargé par eux de veiller Madame Hulot.
« Toute une vie de vertu !»
était la seule phrase que la malade prononça depuis la catastrophe. Lisbeth ne quittait pas le chevet d'Adeline, elle l'avait veillée, elle était admirée par les deux jeunes femmes.
« Eh bien, ma chère Madame Saint-Estève, » dit l'avocat en introduisant l'horrible vieille dans son cabinet et en fermant soigneusement les portes.
« Où en sommes-nous ? » ?»«
Eh bien, mon cher ami, » dit-elle en regardant Victorin d'un œil froidement ironique, « vous avez fait vos petites réflexions ? Avez-vous agi ? Donnez-vous 50 000 francs ?»«
Oui, » répondit Hulot-fils, « car il faut marcher. Savez-vous que, par une seule phrase, cette femme a mis la vie et la raison de ma mère en danger ? Ainsi, marchez. » !»«
On a marché, » répliqua la vieille.
« Eh bien !» dit Victorin convulsivement.
« Eh bien, vous n'arrêtez pas les frais ?»«
Au contraire. C'est qu'il y a déjà 23 000 francs de frais. »
Hulot-fils regarda la Saint-Estève d'un air imbécile.
« Ah ça, seriez-vous un jobard, vous l'une des lumières du palais ?» dit la vieille. « Nous avons pour cette somme une conscience de femme de chambre et un tableau de Raphaël. Ce n'est pas cher. »
Hulot restait stupide. Il ouvrait de grands yeux.
« Eh bien, » reprit la Saint-Estève, « nous avons acheté Mademoiselle Reine Tonsard, celle pour qui Madame Marneff n'a pas de secret. »«
Je comprends. »«
Mais si vous lésinez, dites-le. »«
Je payerai de confiance, » répondit-il.
« Allez, ma mère m'a dit que ces gens-là méritaient les plus grands supplices. »«
On ne roue plus, » dit la vieille.
« Vous me répondez du succès. »«
Laissez-moi faire. » répondit la Saint-Estève.
« Votre vengeance mijote. » Elle regarda la pendule marquait 6 heures.
« Votre vengeance s'habille, les fourneaux du rocher de Cancale sont allumés, les chevaux des voitures piaffent, mes fers chauffent.
Ah, je sais votre Madame Marneffe par cœur. Tout est paré, quoi. Il y a des boulettes dans la ratière. Je vous dirai demain si la souris s'empoisonnera. Je le crois. Adieu, mon fils. Adieu, madame. Savez-vous l'anglais?
Oui.
Avez-vous vu jouer Macbeth en anglais?
Oui.
Eh bien, mon fils, tu seras roi, c'est-à-dire tu hériteras. Dit cette affreuse sorcière devinée par Shakespeare et qui paraissait connaître Shakespeare. Elle laissa Hulot hébété sur le seuil de son cabinet.
N'oubliez pas que le référé est pour demain, dit-elle gracieusement en plaideuse consommée. Elle voyait venir deux personnes et voulait passer à leurs yeux pour une comtesse pimbèche.
Quel aplomb, se dit Hulot en saluant sa prétendue cliente.